Bonsoir à tous, merci de votre fidélité à VOA Afrique. C'est parti, comme tous les lundis soirs, c'est Sporama en direct de Washington. Merci de votre fidélité, déjà plus de 2 millions de fans sur Facebook. On continue, on est ensemble évidemment pour parler de sport, les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs. On va évidemment vous demander de composer le 001-202-619-3140, 001-202-619-3140 pour participer en direct. Georges, Léonard, Sagno, Fred Nerkayemit derrière la vitre pour prendre vos appels. On va saluer évidemment nos spécialistes avec nous ce soir depuis Marrakech, notre confrère de Radio Mars, Amine Birouk. Bonsoir Amine.
Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous.
On va saluer également à Libreville, Jules Valentin Goué. Bonsoir Jules.
Bonsoir Nicolas. Bonsoir à tous.
Et on va faire un coucou à Amdinsi, notre consultant sénégalais depuis la France. Bonsoir Médine.
Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous les auteurs de VOA Afrique.
Alors évidemment messieurs, on parlait et on parle encore ce lundi de ce qui s'est passé sur la zone Afrique pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2018 qui se déroulera en Russie. On jouait la deuxième journée, les cinq groupes qui jouaient ce week-end depuis vendredi dernier exactement. On a eu des surprises, on a eu de la déception et on a eu également la polémique du week-end, on y reviendra. On va commencer dans l'ordre évidemment, on va commencer groupe par groupe. Le groupe A, celui qui a donné le coup d'envoi de cette deuxième journée avec la petite victoire de la Tunisie, 1-0 à Alger. C'était contre la Libye, les Aigles de Carthage qui contiennent et qui ont maintenant 6 points. Ils sont en tête actuellement, co-leader de ce groupe A avec les RDC. Amine, le parcours tranquille qui continue pour le moment pour les Aigles de Carthage. Hein.
Santé Nicolas dès le tirage au sort et on prédisait qu'il y aurait véritablement un match ou un bras de fer entre la Tunisie et la République démocratique du Congo. Les Tunisiens ont fait preuve de leur solidité habituelle face à la Libye. Il est vrai que cette fois-ci, il fallait véritablement en découdre avec un adversaire autrement plus motivé que celui qui s'est incliné sur le score de 4-0 le mois dernier face à la République démocratique du Congo. Les Tunisiens ont dû cravacher dur et ils ont recouru à leur spécialiste maison, Wahbi Khazri, l'ex-bordelais, qui a su faire la différence. Et ça donne une belle rente pour les hommes d'Henri Kasperzak. Deux matchs, deux victoires. Ça nous met l'eau à la bouche dans la mesure où il y aura une double confrontation lors de la troisième et de la quatrième journée face à la République démocratique du Congo, qui est l'autre épouvantail de ce groupe. Et a priori, si les Tunisiens veulent retrouver la Coupe du Monde, comme ce fut le cas en 78, 98, 2002 et 2006, il va falloir qu'ils réussissent à gagner au moins à domicile et qu'ils puissent limiter la casse lors de leur déplacement RDC.
Et oui, justement, vous en parliez, les Léopards de la RDC qui ont eu un peu de difficultés à Conakry avec évidemment l'ouverture du score par le Sili National sur pénalty à la 23e minute. Mais finalement, victoire 2-1, Nisken Skebano et Yannick Bolasie hein, qui sont les deux buteurs congolais. Une victoire à l'extérieur importante, 2-1. Avant de vous entendre, on va d'abord écouter Florent Mbengue qui est le sélectionneur des Léopards. Il est interrogé au micro de notre partenaire Top Congo FM.
C'est une bonne chose pour nous parce que ça nous a montré qu'il ne suffit pas de monter sur le terrain pour gagner le match. On doit travailler. Même si on a du talent, le travail passe toujours avant. On ne l'a pas fait en première mi-temps. On a rectifié à la mi-temps. J'ai crié comme je n'ai jamais crié jusqu'à maintenant. Et tant mieux.
Voilà, Florent Mbengue, le sélectionneur des Léopards. On va écouter à présent Lapé Bangoura, qui est le sélectionneur de l'équipe nationale de la Guinée.
En moins de 5-7 jours, on ne peut pas mettre une équipe qui peut rivaliser les équipes africaines.
C'est pas compliqué.
Ah, c'est compliqué. Là, je pense qu'on a moins de chances de la qualification au mondial.
La Guinée mène en première période le 1-0. Quel était le message
de la DDC? Le message, c'était d'imposer en deuxième mi-temps, garder le rythme comme on avait en première.
Voilà pour les déclarations évidemment de Lapé Bangoura, pardon pour la qualité sonore. Alors évidemment, on a ce résultat 2-1. Jules Valentin Goué, les Léopards de la RDC, qui, tranquillement mais sûrement, qui assument hein, leur statut, tout comme les Tunisiens hein, dans cette poule A.
Bien sûr, c'était les favoris. On sait que la RDC présente une des équipes les plus convaincantes depuis 2 ou 3 ans. Et donc, il n'est pas étonnant qu'elle essaye de prendre d'entrer la tête du groupe. Et en plus, dans une compétition comme celle-là, les éliminatoires, où la plupart des équipes sont confrontées à un problème d'homogénéité, les joueurs se réunissent en quelques jours seulement. Alors, les équipes qui ont un fond de jeu, qui ont une ossature bien solide et rodée, et prennent de l'avantage même à l'extérieur, surtout quand l'équipe qui les reçoit est obligée de faire le jeu, donc de se découvrir. Donc, je crois que c'est bien parti pour la RDC qui a battu, en fait, l'arbitre de la poule qui est la Guinée.
Merci beaucoup. On va prendre un premier appel depuis l'Angola qui nous appelle. C'est Padjo, bonsoir.
Bonsoir, bonsoir, merci. Comment vous allez ?
Ben, très bien, merci beaucoup Padjo de nous suivre depuis l'Angola. Qu'est-ce que vous pensez de cette victoire 2-1 et finalement de ce duo et de ce duel qui s'annonce entre la Tunisie et la RDC pour la première place de ce groupe ?
Vraiment, merci beaucoup pour la question. La première des choses, c'est d'abord quelque chose à féliciter pour la RDC. La RDC qui a entamé la partie de cette rencontre est très mal. Je me suis posé la question de savoir, mais la RDC réserve encore un banc très riche. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec le classement? Or, lui-même, le secrétaire, le sélectionneur, il savait ce qu'il faisait. Et la RDC était, je ne sais quoi dire, était vraiment à la malheur de cette rencontre. La Guinée était au-dessus de truc, malheureusement, pour lui. La Guinée était maladroite, ne savait pas quoi faire parce qu'il y avait aussi un petit mur à la défense congolaise. C'est quelque chose à féliciter. La RDC qui s'est réveillée à la deuxième mi-temps et a fait une surprise à l'espace de 2 minutes. Quelqu'un de Banon de Fulham à l'Angleterre et Bolas de Everton en Angleterre également ont montré quand même qu'il y avait. La morale est un peu calme là parce qu'il y a d'autres joueurs qui, avec la foule au gradin, la motivation des supporters peuvent se démoraliser et puis être en dehors du match. Mais heureusement pour ceux, les hommes de Flora Ibengué ont quand même eu un cœur de travail. Et ce que je sens, j'ai compris, la RDC joue pendant 90 minutes. S'il n'est pas encore 90 minutes, la RDC ne peut briser le bras. Là, je reviens en 2015 à la CAN, quand la RDC avait joué le Congo-Brazzaville. Je suis la RDC battue par 2-0, mais c'était à l'espace de 15 minutes. Je vis un changement total. Donc, c'est quelque chose à féliciter, mais je vois qu'un grand match ou une grande finale sera celle de la Tunisie. Et celui de la RDC.
Merci beaucoup, Padjo, de nous avoir appelé, évidemment, depuis l'Angola. On va suivre ce groupe A, évidemment. On va parler du groupe B. C'est peut-être la grosse déception de ce début d'éliminatoire de cette Coupe du Monde 2018. C'est l'Algérie, finalement. L'Algérie, malgré un nouvel entraîneur, eh bien, l'Algérie qui n'y arrive pas, qui cale à nouveau. Cette fois-ci, c'est contre les Super Eagles. 3-1, la défaite, ça fait mal. Évidemment, Amine Birouk, les Fenech, qui pensaient avoir un petit peu remanié les choses avec l'arrivée du nouvel entraîneur. Et finalement, ça ne marche toujours pas pour les Fenech.
Qui lui imaginait, après la Coupe du Monde 2014 ou avant la CAN 2015, l'Algérie, qui avait été le meilleur représentant du continent lors de la dernière Coupe du Monde, se retrouvait en ballottage totalement défavorable après seulement 2 rencontres de poule. Un nul face au Cameroun et surtout samedi, une défaite lourde de conséquences face au Nigeria. La décision des joueurs, la volonté de la fédération de se séparer de Rajevac lors du mois dernier n'a pas apporté l'électrochoc voulu. Lors du match que vous avez certainement tous pu suivre, les Nigériens ont marqué à 2 reprises très tôt dans la partie. Les Algériens ont essayé de réagir. Ils sont revenus à 2-1, mais il y a eu le coup de grâce en toute fin de rencontre. C'est quelque chose qui manque dans cette sélection algérienne alors qu'elle possède certainement quelques-uns des plus grands talents du continent, les Mahrez, les Slimani. A priori, ils sont dans une posture difficile, puisqu'il faudra maintenant un véritable sans-faute et surtout un miracle, car il y a 2 sélections qui se détachent du lot. Il y a un degré moindre, le Cameroun, et il y a surtout le Nigeria qui a réussi un carton plein lors des 2 précédentes sorties dans ce groupe 2.
Oui, vous l'avez dit, Aminia, il va falloir évidemment gagner par 2 fois contre les Chipolopolo de Zambie. Dans le même temps, les Camerounais qui n'ont pu faire, Jules Valentin Gouet, que match nul, 1-0 partout, domicile à Limbé face à la Zambie.
Oui, le Cameroun qui n'avait pas pris le match par le bon bout, vous savez, c'est une équipe, on le claironne depuis quelque temps, qui est en reconstruction, mais ça fait quand même 2 ans, et où on n'a pas pris, et comme tout le monde le sait, tous les meilleurs joueurs en activité, mais plutôt un bloc qui se bat très bien. Or, le Cameroun, pendant ce match, en première mi-temps, ne s'est pas battu du tout. Les joueurs sont venus comme s'ils avaient un sentiment de supériorité et finalement ont été surpris par des ambiances beaucoup plus concentrées. Et le match s'est durci en deuxième mi-temps. Quand ils voulaient remonter, faire la différence, ils n'ont pas été efficaces. Donc là, et c'est une leçon pour l'équipe camerounaise et pour la Zambie, c'est peut-être un rebond qui peut présager d'un avenir peut-être meilleur.
Oui, Aminensi, évidemment, les Super Eagles qui sont pour le moment cette valeur sûre, hein, avec déjà 6 points engrangés lors de ces deux matchs. Hein.
Oui, tout à fait. Les Super Eagles, il faut le dire, qui ont créé l'espoir parce que, comme Amin l'a dit, l'Algérie, c'est une grosse équipe. Mais bon, le Nigeria, comme vous le savez, ils sont éliminés et pour la Coupe d'Afrique des Nations. Ils n'ont plus le droit à l'erreur. Ils doivent se qualifier pour le Mondial 2018 et ils sont tentés de faire un parcours sans faute avec deux victoires. Et on a vu ce week-end les cadres ont répondu comme Moses qui a réalisé un doublé.
Voilà, Amédine, on va essayer de vous rappeler, Amédine, hein, la ligne n'est pas très bonne, la connexion n'est pas très bonne, on va essayer de vous rappeler. On rappelle évidemment hein, le match nul un but partout entre le Cameroun et la Zambie et la victoire du Nigeria face à l'Algérie. 3-1, les Super Eagles qui sont en tête de ce groupe B. C'est toujours sur Sporama VOA Afrique. On parle évidemment de la deuxième journée des éliminatoires du Mondial 2018 qui se déroulera, vous le savez, en Russie. On parle à présent, on retourne sur Marrakech, retrouver Amine Birouk, puisqu'il y avait la confrontation de deux grandes Afriques, hein, le champion en titre 2015, évidemment, la Côte d'Ivoire de Michel Dussuyer face aux Lions de l'Atlas qui sont désormais entraînés par un certain Hervé Renard. Et personne n'a pu l'emporter, évidemment, hein, lors de cette confrontation. Un match nul qui arrange un peu les Ivoiriens, un peu moins les Marocains.
Très certainement, Nicolas, la Côte d'Ivoire s'est contentée du minimum syndical. Tout au long de la partie face au Maroc, elle a donné l'impression de gérer la situation. Peut-être qu'il y avait une appréhension d'affronter l'ancien sorcier blanc, en tout cas celui qui les a menés vers leur second sacre africain, Hervé Renard. Donc il y a eu pendant une bonne partie de la rencontre, un énorme respect. Ça ne s'est pas décanté du côté marocain alors qu'il y a eu un gros temps fort en fin de première mi-temps et puis un tout petit peu en début de seconde. Les Ivoiriens ont réalisé peut-être un meilleur coaching en toute fin de rencontre avec l'entrée de Wilfried Bony et de Max Gradel pour pouvoir faire pencher la balance en leur faveur face à une équipe marocaine qui a manqué d'imagination, qui a manqué de punch. Et aujourd'hui, le moins que l'on puisse dire, c'est que l'état de grâce qui a suivi l'arrivée d'Hervé Renard s'est arrêté. Il y avait à l'arrivée de l'entraîneur français des adversaires qui étaient les partisans de l'ex-sélectionneur. Les plus sceptiques étaient majoritaires et ceux qui étaient enthousiastes à l'idée d'avoir un double champion d'Afrique à la tête des Lions de l'Atlas. Aujourd'hui, on se pose des questions sur son coaching, sur certains de ses choix, puisqu'il a aligné des joueurs qui n'étaient pas à leur poste. Et surtout, le fait qu'il ait décidé, par exemple, de se séparer provisoirement de Youssef Larabi, qui a été le meilleur buteur du Maroc lors des éliminatoires de la CAN. Il va falloir maintenant se dire aussi que c'est un bon point de prix pour l'équipe du Maroc, qui n'encaisse pas de but depuis 4 ou 5 rencontres, mais qui ne se crée pas du tout d'occasion de scorer.
Oui, et puis en plus, les deux équipes, hein, si je ne m'abuse, qui se retrouveront hein, lors de la prochaine CAN dans le même groupe. Un résultat finalement, hein, c'est une journée morte un peu dans ce groupe, puisque le Mali et le Gabon, dans le même temps, n'ont pu faire match nul, évidemment, que 0-0, Jules Valentin Ngoué à Bamako. Hein.
Oui, un match très fermé en première mi-temps et, ma foi, une légère domination gabonaise en deuxième mi-temps quand on sait que les Maliens, même à domicile, aiment bien jouer en contre. Donc finalement, les deux équipes sont neutralisées au milieu de terrain. Ça a donné un match relativement terne.
Merci beaucoup. On va écouter évidemment les deux entraîneurs, hein, Giresse et Garrido Rocha. On va d'abord écouter l'entraîneur du Mali à domicile. Petite déception au stade du 26 mars pour Alain Giresse. On l'écoute.
deux joueurs qui ne sont pas là et trouver de compenser l'équilibre. Après, on a beaucoup de jeunesse. Et cette jeunesse-là, il faut effectivement la propulser en avant comme ça du jour au lendemain. C'est pas si évident. Les qualités futures qu'ils ont, qu'elles s'expriment aussi vite à ce niveau-là. On sait bien que cette équipe-là, actuellement, elle est rajeunie par les circonstances. Et ces circonstances-là, il faut en tenir compte. OK, on a de la réserve et de la relève, mais ce n'est pas comme ça du jour au lendemain que, d'un coup, elle se traduit au niveau d'une compétition de Coupe du Monde. Sur deux matchs de qualification dans ce niveau, j'ai dit qu'il nous manque encore quelque chose pour avoir cette expérience de maturité, des matchs de ce niveau-là pour basculer de l'autre côté. On l'a vu ce soir, j'en ai parlé, si on avait marqué, je pense que le match aurait un autre visage. Ben, dans l'état de rechercher cette efficacité de ce genre de compétition, avec les hommes qu'il faut.
Voilà Alain Giresse, hein, le sélectionneur du Mali. On va écouter à présent, hein, évidemment, Garrido Rocha, qui est le sélectionneur du Gabon.
Je suis très, très content avec la performance de mon équipe. Je pense que l'équipe a joué ensemble. On a fait un jeu tactiquement parfait. On a resté ensemble. Seulement, nous a manqué un petit peu de vitesse dans la transition défense-attaque. Avec la rapidité, avec la vitesse, je pense que on avait les trois points avec nous. J'ai eu une semaine avec cette équipe, Mali. C'est une bonne équipe. On a discuté ensemble qu'est-ce qu'on peut faire contre Mali. Toute l'équipe a dit qu'on va pour gagner les trois points. C'était la mentalité qu'on a pendant une semaine, 4 entraînements. Et c'était pour ça qu'on est venu avec la mentalité pour gagner les trois points. C'est une bonne équipe puissante, physiquement forte. On a étudié bien Mali. On a été bien préparé le match pour le Mali.
Voilà pour le sélectionneur du Gabon. On va parler à présent du groupe D, celui qui a fait beaucoup saliver évidemment ce week-end depuis ce pénalty imaginaire évidemment obtenu par l'Afrique du Sud. Victoire 2-1 des Bafana Bafana contre les Lions de la Teranga, injustement punis alors que le match était plutôt équilibré sur le terrain. Mais défaite 2-1 dans ce groupe D, une défaite qui fait mal évidemment. Abdinsi, on en parle encore de ce pénalty imaginaire, hein. Amdine, est-ce que vous nous entendez ?
Arbitrage ou une bourde qui change tout, hein, parce que si le Sénégal s'est incliné et samedi dernier face à l'Afrique du Sud, c'est à cause de l'arbitre, parce que tout se passait bien jusqu'à la 43e minute où l'arbitre ghanéen Joseph Lamté a sifflé ce pénalty imaginaire qui a tout changé, parce qu'après ce pénalty, les Lions ont concédé un deuxième but 2 minutes après, un pénalty qui a concentrer cette équipe nationale du Sénégal. Heureusement, en deuxième mi-temps, Cheikh Ndoye a réduit le score, mais c'était insuffisant. Le Sénégal qui concède ainsi sa première défaite en match officiel depuis l'arrivée d'Aliou Cissé à la tête de cette équipe, parce que lors des éliminatoires de la Coupe d'Afrique, le Sénégal a réalisé un grand challenge, 6 matchs, 6 victoires. Pour la première journée des éliminatoires, le Sénégal s'était bien comporté en dominant le Cap Vert par 2-0, mais samedi dernier, ils sont tombés sur un arbitre qui mérite d'être ragué, parce que c'est quelqu'un qui est coutumier des faits, qui est un récidiviste, pour ne pas dire un multirécidiviste. En 2010, il a été mêlé à un scandale. C'était lors de la finale de la Ligue des Champions. En 2015 aussi, il est mêlé à un scandale. C'était lors d'un match de la Ligue des Champions entre Sétif et une équipe marocaine. Donc, c'est un multirécidiviste. Il a été même suspendu en 2010 par la CAF. Donc, la CAF doit vraiment revoir les choix à faire par rapport à ces arbitres, parce qu'on le sait, l'arbitrage est le maillon faible du football africain. C'est vraiment dommage. C'est vraiment très, très dommage, parce que perdre un match sur une erreur ou une bourde de l'arbitre, vraiment, on doit dépasser ça.
Les
autorités fédérales sont très remontées. D'ailleurs, un recours va être déposé par le président de la fédération, Maître Augustin Senghor Nicolas Pinot.
Merci pour l'info. Et d'autant que ce résultat n'arrange pas les Sénégalais, puisque le Burkina Faso a battu de son côté à Praia, hein, les requins bleus du Cap-Vert 2-0. Ça se resserre dans cette poule, évidemment. Et puis, on va parler l'autre choc qui avait lieu, évidemment, c'était dimanche. C'est l'Égypte, les pharaons qui battent 2-0 le Ghana. Ça va mal, décidément, pour les Ghanéens, mais ça va bien pour les pharaons d'Égypte. Déjà 2 victoires dans ce groupe. Ça va mal d'autant plus pour les Ghanéens, hein, que les Ougandais ont battu 1-0 les Congolais. Jules Valentin Ngoué, là encore, dans cette poule, évidemment, rien n'est joué, mais beau succès des Égyptiens.
Oui, des Égyptiens bien partis qu'on attendait, qui ont fait d'abord de bons éliminatoires au niveau de la CAN et qui nous reviennent avec un bon cru à la tête duquel on retrouve Ahmed Salah et Abdallah, d'ailleurs les deux buteurs de la rencontre. Donc on a vu les Égyptiens ont fait la différence dès la première mi-temps et ont posé leur empreinte sur la rencontre, se permettant même d'inquiéter les Ghanéens par des contres en fin de rencontre. Donc je crois que c'est la grande équipe qui revient petit à petit.
Merci beaucoup. On va prendre un auditeur justement qui nous appelle du Congo-Brazza. Mielin qui est avec nous. Bonsoir.
Oui, bonsoir.
Alors Mielin, nouvelle défaite pour les Diables Rouges. Hein.
Oui, oui, une nouvelle défaite et une grande frustration pour le Congo.
Comment vous expliquez finalement ce mauvais départ des Diables Rouges?
Bon, ce mauvais départ est dû pour l'entraîneur, quoi. Je m'explique, l'entraîneur a fait des choix, il préfère plus des joueurs locaux par rapport aux joueurs professionnels. Et voilà les résultats.
D'accord, bah écoutez, merci beaucoup Mielin de nous avoir appelé, justement, on le disait, cette défaite importante. On continuera évidemment à en parler sur VOA Afrique. Restez branchés, c'est Sporama. Voilà, on revient pour parler de football. Hein. Le football ivoirien en deuil. Hein. Laurent Pokou est décédé à l'âge de 69 ans. Évidemment, pour les plus jeunes qui ne le connaissent pas, il a été quadruple champion de Côte d'Ivoire, sextuple vainqueur de la Coupe de Côte d'Ivoire avec la SEC Abidjan. Il a surtout, pendant longtemps, détenu le record des buts marqués lors de la CAN, 14 buts lors des CAN 68 et 70. Il a été dépassé seulement par Samuel Eto'o en 2008 et il est le seul joueur à avoir marqué un quintuplé dans un match contre l'Éthiopie en 1970. Il avait reçu son plus bel hommage, hein, je le disais, Jules Valentin Ngoué, en 1972, hein, puisque le roi Pelé lui-même avait dit « J'ai trouvé mon successeur, il s'appelle Laurent Pokou, il n'a qu'un défaut, il n'est pas brésilien. » Jules Valentin, immense tristesse. Hein.
Oui, une immense tristesse, surtout et pour un joueur comme Pokou, qui porte d'ailleurs un nom symbolique de sauveur, comme son ancêtre Aoura Pokou, qui sauva le peuple baoulé. Alors là, nous avons un footballeur qui, à son époque déjà, a marqué de son empreinte de football africain. C'était un avant-centre tout en finesse, qui pouvait se convertir en passeur. Donc un avant-centre moderne, déjà à une époque où on ne voyait que des guerriers à ce poste. Et c'est un des joueurs qui a le plus vite été adopté en Europe en tant que dribbleur, parce que les bons dribbleurs africains le plus souvent étaient remis à l'école dès qu'ils arrivaient en Europe. Mais Pokou a su mélanger en même temps la finesse et son art du dribble et son efficacité. Je crois que ses successeurs, même si c'est Drogba qui est apparu comme le deuxième Pokou de par son rayonnement ces dernières années, mais c'est dans un autre registre parce que sur le plan footballistique, ses successeurs sont Abdul Razak, Roger Milla ou Samuel Eto'o et qui vont s'inspirer beaucoup de ce monument du football africain.
Oui,
vraiment, c'est
ouais.
Une triste nouvelle pour nous et qu'il repose en paix.
Et que la terre lui soit légère. Amdine, si vous aviez eu l'occasion récemment de lui parler lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations.
Tout à fait. C'est une grosse perte pour le football africain. Non seulement il était bon sur le terrain, mais après avoir raccroché, il donnait de bons conseils. Lorsque j'ai eu la chance de l'interviewer, il m'a dit quelque chose. L'équipe nationale du Sénégal ne gagnera jamais la CAN tant qu'elle n'est pas disciplinée, parce que pour lui, il ne suffit pas d'avoir de bons joueurs, mais il faut la discipline. Et il va rappeler en 92 la cohésion qui a fait que la Côte d'Ivoire avait gagné au Sénégal. Et je retiens ça de lui jusqu'à présent. Et cette interview, je l'ai donnée au Lion du Sénégal. Et je pense qu'ils vont vraiment profiter de ses conseils. Vraiment, c'est une grosse perte pour le football sénégalais, Nicolas, pour le football africain, Nicolas Pignon.
Merci beaucoup. Allez, rapidement, pour vous dire qu'au Tour du Rwanda, la première étape a été remportée, le tour cycliste, par le Canadien Guillaume Boivin. Entre Kigali et Ngoma, c'est toujours le Rwandais Joseph Areruya qui garde le maillot de leader, mais pour une seule petite seconde. Et puis évidemment, on est de ce côté-ci de l'Atlantique, on va parler NBA. On accueille dans ce studio Cheikh Tiro. Bonsoir Cheikh.
Bonsoir, ça va Nicolas?
Ça va bien, merci beaucoup. Alors ouais. Cleveland, évidemment, qui a consolidé sa première place, évidemment, 8 victoires en 9 matchs en battant Charlotte, 100 à 93.
Ouais, bon, et Cleveland, actuellement, cette année, ils sont en train de défendre les championships des États-Unis ici. Bon, bon, ils ont une très bonne équipe du banc. C'est le banc qui donne beaucoup. Même si LeBron ne joue pas, ils ont à mesure de faire venir les joueurs qui peuvent bien prendre les relais. Et puis c'est ça qui a fait qu'ils gagnent très bien cette année.
Et puis alors, le carton peut-être de la soirée hein, pour ce joueur d'origine congolaise, c'est Ibaka. Hein, Ibaka qui a cartonné contre son ancien club, hein, Oklahoma City. Victoire d'Orlando 119 à 117. Hein.
Ibaka, il s'est revengé de l'équipe qu'il a transférée au Orlando Magic. Bon, ça a été un honneur pour tous les Africains. Bon, Westbrook, il est toujours, il a toujours beaucoup de potentiel d'être MVP cette année parce qu'il a marqué 40 points encore contre ces équipes-là.
Et alors, que dire de Golden State qui s'est fait peur mais qui l'a emporté 133 à 120 contre Phoenix?
Golden State, ils sont en train d'adapter les rythmes avec Kevin Durant. Bon, actuellement, à l'Ouest, ils ne sont pas premiers, ils sont deuxièmes actuellement. C'est les LA Clippers qui sont premiers actuellement. Donc, ils sont en train de se battre pour prendre la première position là-bas.
Et vous parliez, on a un petit également au mot de Minneapolis hein, qui a battu 125 à 99 les Lakers. Hein.
Les Lakers a beaucoup s'est beaucoup amélioré cette année. Avec le Minnesota, il y a un jeune Canadien, Andrew Wiggins, qui a marqué 41 points. Les années passées, ils étaient derrière dans le West, mais cette année, ils sont 11e dans le West. Donc, c'est ça qui veut dire qu'il améliore très bien. Et avec Carmelo Anthony Towns, qui est là-bas aussi, il joue bien avec Andrew Wiggins. C'est ça qui fait qu'il assure là-bas de ses côtés aujourd'hui.
Merci beaucoup Jacques Thirault pour ce point NBA. Vous l'entendez derrière moi, la musique de fin de Sporama. On va saluer à Marrakech notre confrère de Radio Mars, Amine Birouk. Bonsoir Amine.
Bonsoir et à très bientôt Nicolas.
On va remercier également Jules Valentin de Gouy-à-Libreville. Bonsoir Jules.
Bonsoir Nicolas et à la semaine prochaine.
Et on va faire un grand coucou également à Amdine Si. Bonsoir Amédine.
Bonsoir Nicolas et à lundi prochain pour un autre numéro de Sporama.
On va remercier également Georges Léonard Sagno, Fred Ner, Kayemid pour la mise en onde d'Audrey Strigus pour évidemment la console derrière ce studio ici à Washington. Nicolas Pinault à la présentation. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de VOA Afrique.